Kiosque de la parole. Une émission où Pierre-Paul Delvaux vous propose une lecture cursive de l'Évangile de Jean avec José Willibald Michaud, moine à Maritsou. Parce que lire un grand texte, c'est être le propre lecteur de soi-même.
Bonjour à tous, au micro Pierre-Paul Delvaux et nous continuons notre lecture cursive du chapitre 8 de Saint Jean. Le Père José a longuement commenté l'épisode de la femme adultère et nous allons revenir sur une grande idée qu'il a développée, c'est que Jésus a véritablement une sorte de connivence avec toutes nos ambiguïtés. Jésus a traversé toutes nos ambiguïtés et je voudrais vous demander, Père José, est-ce là le secret, au fond, de la fascination qu'il exerce? On dit à certains moments, en guise d'accusation, c'était au chapitre 7, Jésus ce séducteur. Mais effectivement, il a une sorte de rayonnement. Est-ce que finalement, ce n'est pas nécessairement dû à ses qualités d'orateur ni même de raconteur d'histoire, mais peut-être justement, c'est dû à quelque chose de plus secret, peut-être, qui n'est pas dit, en fait.
Oui, c'est une question profonde que vous posez. À quoi est due la séduction de Jésus? Donc, cette attraction qu'il provoque, elle suppose qu'elle éveille chez ceux qui l'écoutent un sentiment nouveau, une liberté, une possibilité nouvelle, mais aussi peut-être le sentiment d'être reconnu, compris et rejoint par une solidarité mystérieuse. Les gens se sentent reconnus, identifiés et unis à celui qui les écoute ou qui leur parle d'une façon nouvelle. La séduction vient du fait de se sentir compris, reconnu, accepté, intégré.
C'est au fond le contraire du jugement. On peut avoir un jugement positif ou négatif ici et on est simplement reconnu.
Tout à fait. Ah, mais Jésus dit d'ailleurs, refuse de juger et refuse le jugement. Il laisse l'autre, je dirais, se situer, donc se juger soi-même.
C'est certainement maintenant l'occasion, Père José, peut-être de continuer ce chapitre 8 à partir du verset 12. Oui. Il y a trois parties, me semble-t-il. Oui. Dans la première partie, à partir du verset 12 et suivant, on retrouve un certain nombre de thèmes, le témoignage. On retrouve aussi « Vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais ». Et puis, au verset 14, il y a une chose qui est extrêmement intéressante, c'est justement « Moi, je ne juge personne. » Alors, je vous lis ces deux ou trois versets. « Il est vrai que je me rends témoignage à moi-même, et pourtant mon témoignage est recevable, parce que je sais d'où je viens et où je vais. Tandis que vous ne savez ni d'où je viens ni où je vais. Vous jugez de façon purement humaine, moi je ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, mon jugement est conforme à la vérité. » Parce que je ne suis pas seul, il y a aussi celui qui m'a envoyé.
Pendant que vous lisez ce texte, je pensais que peut-être que dans la rédaction du quatrième évangile, la raison pour laquelle on a inséré ici le récit de la femme adultère, c'est probablement cette parole de Jésus, « Je ne juge personne ». Et c'est illustré par la réponse de Jésus à la femme, « Je ne te juge pas non plus. » Jésus refuse cette forme de jugement qui est une condamnation meurtrière. Il veut rendre la vie, au contraire. Et je crois que c'est ça que sentent les pécheurs qui viennent à lui. Ils sentent en lui la possibilité de reprendre vie.
Et puis il y a une chose extrêmement intéressante, c'est qu'il y a une définition de la vérité ici. s'il m'arrive de juger, mon jugement est conforme à la vérité, puisque je ne suis pas seul.
Oui. Ah, ce thème endémique dans tout l'évangile, où Jésus, chaque fois qu'il prend position, qu'il affirme, qu'il parle, il s'efface derrière une autre parole qui est à la racine de lui-même, qui est celle du Père. Jésus s'efface constamment pour faire place au Père et nous conduire vers lui. Et ici, la seule garantie que Jésus évoque ou invoque, c'est celle de la présence du signe du Père qui passe à travers lui. Il n'est que le révélateur.
On peut penser, Père José, et je vous en parlais tout à l'heure, que ce thème du fait d'être relié à son Père est une sorte de ce qu'on appelle en musique un ostinato,
ah oui.
Une sorte de motif qui réellement se répète et en quelque sorte est la base continue de ce quatrième évangile.
Tout à fait. C'est tout le temps présent, d'un bout à l'autre de cet évangile, jusqu'au dernier discours d'après la scène, où Jésus va révéler l'intimité qui existe entre lui et le Père.
Et puis il y a toujours aussi, et c'est la fin de cet épisode, qui se tient du verset 12 jusqu'au verset 20, « Vous ne me connaissez pas, vous ne connaissez pas mon Père. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père. » Il prononça ces paroles au lieu dit du trésor, alors qu'il enseignait dans le temple. Personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Au fond, il aborde encore ce thème-là, et puis il y a quelque chose qui fait que la violence ne se déchaîne pas.
D'accord, tout à fait.
L'épisode suivant, c'est un épisode un peu difficile. À partir du verset 21, nous en avons le tout début. « Je m'en vais, vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. » Là où je vais, vous ne pouvez aller. Et puis il développe cette idée. Et puis ce qui est très curieux, c'est la fin de cet épisode, entre le verset 21 et le verset 30.
Oui.
Et Jésus leur dit encore, « Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez que je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Je dis ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. » Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui plaît. Alors qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Ce qui m'a frappé là-dedans, c'est que dans cet épisode où on retrouve un certain nombre de thèmes, notamment « je m'en vais »,« vous ne savez pas où je vais », et puis il répète encore une fois que lui et son père sont bien liés, c'est qu'il avait un certain succès. Alors qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Ça fait contraste avec l'hostilité que nous avons vue au moment de la femme adultère.
Mais je trouve que cette adhésion de la foule coïncide avec ce comportement de Jésus qui de nouveau s'efface devant celui qui est à la source de lui-même. Et que c'est un peu cet effacement qu'il donne comme garantie de son authenticité. Lorsqu'il dit « vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais », c'est à ce mystère de sa relation avec son père qu'il fait allusion, mais qui n'est pas encore mûr pour être révélé. Et il faudra, dit-il, que le Fils de l'homme soit élevé pour que la vérité puisse être manifestée.
Cette révélation est donc vraiment à ce point difficile.
Cette révélation, c'est la déchirure d'une gangue qui seule permet l'évidence de la vérité profonde. Oui. Mais il faut cette déchirure.
Et cette déchirure prend du temps, c'est un cheminement.
Ah ben sûrement. Et un cheminement douloureux. Douloureux, un cheminement dans lequel Jésus nous entraîne, il nous hisse dans ce chemin d'ascension qu'il est lui-même. Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Et puis il nous hisse, Père José, effectivement, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez que je suis. Oui, c'est de nouveau.
Alors, cette affirmation, je suis, revient deux ou trois fois dans le chapitre, et elle résonne, elle devait résonner en araméen de façon impressionnante, puisque elle fait entendre le nom imprononçable de Dieu, Yahweh. Yahweh se traduit par « je suis ». Jésus revendique ce nom divin, et ça peut expliquer le scandale ou l'admiration de ceux qui l'écoutent.
Merci Père José. Nous allons faire une pause musicale avec Robert Schumann, avec son concerto pour piano. Sur RCF, nous continuons notre lecture cursive du chapitre 8 de Saint Jean. Nous avons, dans l'émission précédente, lu et commenté le merveilleux épisode de la femme adultère. Et puis, il y a eu cette première séquence, à partir du verset 12, où justement Jésus dit « Moi, je ne juge personne ». Ensuite, il y a cette deuxième partie que nous venons de commenter. « Je m'en vais, vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Là où je vais, vous ne pouvez aller. » Troisième épisode de ce chapitre 8, la véritable postérité d'Abraham. Et il y a ici deux idées nouvelles. La vérité vous rendra libre, d'une part, et puis cette allusion à Abraham avec le sommet du chapitre, de la fin du chapitre 8, où il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Je lis le début de cet épisode à partir du verset 31. Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. » Ils lui répliquèrent, « Nous sommes la descendance d'Abraham et jamais personne ne nous a réduits en esclavage. Comment peux-tu prétendre que nous allons devenir des hommes libres ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, celui qui commet le péché est esclave du péché. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils, lui, y demeure pour toujours. » Dès lors, si c'est le Fils qui vous a franchi, vous serez réellement des hommes libres. Ça, c'est le début de cet épisode. Et puis, je répète que ça se termine par une déclaration qui est vraiment à la limite frontale. C'est au verset 56. « Abraham, votre père, a exulté à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il a été transporté de joie. » Sur quoi les Juifs lui dirent, « Tu n'as même pas 50 ans et tu as vu Abraham. » Jésus leur répondit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour les lancer contre lui, mais Jésus se déroba et sortit du temple. La vérité vous rendra libre, Père José.
C'est aussi un thème cher à Jésus. Délivrer le cœur humain des ombres du mensonge. Et Jésus compare l'écoute de la vérité à la délivrance, à la venue à la liberté. Alors ici, il y a cette discussion dialectique sur la filiation d'Abraham, qui est importante. Ici, c'est Abraham qui est mis en scène plus que Jacob. Abraham, le père de la foi, l'ancêtre primordial. Jésus oppose une certaine forme de vérité et de liberté dans la vérité à l'illusion et l'hypocrisie d'une sorte de fidélité factice, qui serait la fidélité à une loi formelle. Et c'est sur cette base que va s'enclencher la discussion. Qu'est-ce que c'est qu'être fils d'Abraham ? Je crois que c'est être fils, enfant de cette foi qui déracine, qui met en marche, qui engage sur le chemin. Et seulement cette foi-là peut donner la liberté.
C'est la liberté du nomade, encore une fois.
De nouveau, la liberté du nomade. Et quand Jésus oppose cette liberté à leur fidélité factice, il ose affirmer sa propre identité par cette phrase mystérieuse dont on a parlé déjà tout à l'heure, « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Donc Jésus ose revendiquer le nom propre de Dieu dans son mystère en disant cette phrase qui devait résonner de façon merveilleuse et scandaleuse à des oreilles araméennes. Et on peut s'expliquer dès lors que la réaction est de vouloir le lapider. Et je signale simplement ici qu'à la fin de ce chapitre, nous revenons avec le thème de la lapidation qui a ouvert le chapitre. Il a été question de lapider cette femme enfermée dans son péché. Ici, on veut lapider Jésus dans le scandale de sa vérité.
Conformément à la loi, d'ailleurs. C'était considéré comme un blasphème majeur.
Exactement. Il y avait d'un côté l'adultère, ici il y a le blasphème. Tout à fait.
Et donc ici, Jésus fait une sorte de pas de plus dans le dévoilement de ce qu'il est.
Ah oui, tout à fait. Nous cheminons avec lui dans ce dévoilement. Donc, pas à pas, Jésus, par des questions, révèle qui il est. Et le thème de « je suis » et « là où je vais et d'où je viens, vous ne pouvez pas venir encore » devient de plus en plus fréquent, insistant, obstiné, comme vous le disiez tout à l'heure.
Au fond, il a procédé par questions-réponses, et à aucun moment il n'a fait un discours programme, un discours programmatique où il disait ce qu'il était. Ce n'était pas du tout un discours théologique construit comme ce qui est absolument, qui peut être très très beau aussi, mais ici c'est davantage dans le questionnement et dans la révélation.
Absolument. Jésus ne fait pas de discours spéculatif, jamais. Il en reste toujours au comportement vivant et immédiat. Et pour lui, ce comportement, c'est d'être et de n'être que le révélateur du Père.
Et on voit très très bien ce qu'il fait. Nous avons beaucoup souligné le fait que Jésus était séduisant, qu'il exerçait une fascination. Et vous avez pointé, Père José, une série de choses. Et je vous propose de terminer notre émission là-dessus. Finalement, dans ce chapitre 8, il y a le refus du jugement, le jugement des hommes. Il y a cette mise en garde par rapport au mensonge, le mensonge qui peut réellement nous enfermer. Il y a aussi le refus de cette fidélité à une loi formelle, et il y a un refus du discours qui serait un discours programmatique et qui serait un discours tout fait. C'est ça, Jésus ?
Oui, absolument. Et il y a l'immédiateté de cette affirmation finale, « Je suis ». Et dans l'hébreu, dans l'araméen en tout cas, le mot Yahweh évoque dans « Je suis » ce surgissement de l'inattendu. Ça, j'y reviens volontiers. Quand Dieu dit « je suis », ce n'est pas une affirmation métaphysique, c'est l'affirmation d'une présence vivante, enveloppante, engageante. Oui.
Et c'est tout le contraire des thèmes que j'ai évoqués il y a quelques minutes, le jugement, le mensonge, la fidélité à une loi formelle et le discours programmatique.
C'est l'évidence d'une présence qui dépasse toutes les contradictions et qui enveloppe dans l'amour, au fond.
Avec aussi cette merveilleuse connaissance de ce qu'on appelle parfois notre faiblesse, mais notre ambiguïté, oui. Le fait que nous sommes véritablement ce mélange de désirs positifs, négatifs, de désirs constructifs et destructeurs.
Jésus ose s'engager dans la traversée de ce que vous appelez le mélange, dans ce flux et ce reflux de notre inconstance et de notre cheminement hésitant, qu'il oriente, qu'il redresse, qu'il entraîne à sa suite. Jésus est un chemin, et nous ne pouvons pas l'oublier. Je suis le chemin qui est la vérité et la vie.
Je me plais à rappeler que le chapitre 7, vous le disiez, était un peu chaotique, un petit peu comme notre recherche. Ici, dans le chapitre 8, vous dites aussi qu'il y a notre démarche hésitante et que nous sommes rejoints par Jésus et reconnu par Jésus simplement comme des gens qui cheminent en faisant tout ce qu'ils peuvent finalement pour assumer leur humanité.
Mais dans ce cheminement hésitant, Jésus se veut solidaire. Ça, c'est ça qui est important. Il est notre chemin.
Et c'est là-dessus que nous allons nous quitter, chers auditeurs. Merci à vous, Père José, et à très bientôt. Je vous laisse avec le final du concerto pour piano et orchestre de Robert Schumann, sous les doigts de Hélène Grimaud.